2 Corinthiens 5, verset 14, à chapitre 6, verset 12. Paul dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on prenne ce qu'on pourrait considérer comme un verset charnière dans notre texte. C'est le verset 17. Où il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on y pense, on se dit, mais c'est merveilleux, c'est franchement merveilleux cette promesse. On chante ce cantique, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. Mais c'est quelque chose de merveilleux. Qui n'a pas eu envie un jour dans sa vie, de tourner la page, dire « Ah ben ça, j'aurais préféré ne pas le vivre et je préférerais recommencer à zéro, recommencer quelque part. » Et quand Dieu sauve une âme, alors eh bien c'est ce qui se produit réellement. Dieu permet un nouveau départ, c'est un nouveau commencement. On tourne réellement la page sur son passé, on tourne la page sur ses anciennes pratiques, sur ses péchés, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est certain que quand on a une vie qui est pesante, pour le peu qu'on a vécu des choses qui sont difficiles, on a peine à croire que ce soit possible. Et certaines personnes, elles se diraient, ben, moi j'aimerais bien qu'on me donne un nouveau départ. Et bien, c'est ce que Dieu donne. Il offre un nouveau commencement, un nouveau départ avec lui. À noter qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, alors il est une nouvelle création. Et c'est l'idée d'être en Christ qui fait que nous sommes une nouvelle création. Et c'est important parce que ce n'est qu'en Jésus, c'est-à-dire que quand notre vie est offerte, quand elle est livrée, qu'alors, eh bien, toutes choses sont vraiment nouvelles. Tout est nouveau. Mais si ma vie n'est pas livrée, si je ne suis pas en Christ, alors, eh bien, je peux faire marche arrière. Hein. Et même quelqu'un qui est enfant de Dieu, il a accepté Jésus-Christ, il a vécu ce nouveau commencement. Mais s'il ne reste pas en Christ, eh bien il fait marche arrière, il retourne dans sa vie passée, il retourne dans une vie lourde, pesante, peut-être plein de péchés et de mauvaises habitudes, parce que ce n'est qu'en Christ que toutes choses sont nouvelles et qu'on vit dans une vie qui est nouvelle. Un enfant de Dieu qui n'est plus en Christ, il est comme quelqu'un sans Christ. C'est pareil. Il revient à une vie sans Christ. Et il est capable de recommencer ce qu'il faisait autrefois et même parfois pire. Et nous sommes une nouvelle création qu'en lui. C'est en lui. En Christ, alors tout est nouveau. Mais si on marche en lui et si on demeure avec lui, alors eh bien, les choses anciennes sont passées et voilà, on marche en nouveauté de vie, comme dit la parole de Dieu. Et on est une nouvelle personne. On a des nouvelles pensées, on a des nouvelles aspirations. Tout à l'heure, Sébastien disait, voilà, chercher les choses d'en haut, et bien ça devient naturel. On cherche les choses d'en haut, on se préoccupe des choses de Dieu parce qu'on est une nouvelle création. On est une nouvelle personne. Et si on, on voit que dans sa vie, eh bien, on est en train de retourner vers des choses passées, ben, ce n'est pas bon signe. On devrait se poser la question, est-ce que je suis toujours en Christ ? C'est ça qui est important. Et j'aimerais qu'on examine les choses nouvelles, puisque nous sommes une nouvelle création. Alors, il y a plein de choses qui sont nouvelles. Quelles sont les choses nouvelles dans notre texte, les choses qui ont changé, qui font que tout est nouveau ? La première chose, c'est l'amour. Paul parle, on pourrait dire, d'un nouvel amour, hein, lorsqu'il dit « car l'amour de Christ nous presse ». Donc, au verset 14. L'amour de Christ nous presse. Qu'est-ce que l'amour de Christ ? Et est-ce que l'amour de Christ nous presse ? L'amour de Christ, c'est tout d'abord pas un amour humain, en tout cas celui que nous connaissons, mais c'est un amour qui vient de Christ, donc qui vient de Dieu et qui descend dans notre cœur. Et quand on lit ce passage, on voit l'amour de Christ justement qui est dans le cœur de l'apôtre Paul et qui le presse. Il a un désir ardent de voir les âmes se réconcilier avec Dieu. Il brûle qu'il y ait des nouvelles personnes qui puissent venir à Jésus et le connaître. On connaît ce verset, je pense pour la plupart, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Hein. Et l'amour de Dieu est large, il est large, vaste, puissant. Mais cet amour de Dieu, c'est aussi l'amour de Christ, hein, puisque Christ nous a aimés, il est dit plusieurs fois dans les Écritures, il nous a aimés et il est descendu lui-même volontairement pour s'offrir en sacrifice pour nos péchés. Et donc c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Christ, mais cet amour, eh bien Dieu veut le mettre aussi dans notre cœur. Et c'est ça qui est nouveau, c'est qu'il veut nous donner son propre amour pour qu'on puisse aimer les gens qui sont autour de nous. Et si Paul dit « l'amour de Christ nous presse », c'est que Dieu était en train de le pousser à aller vers les uns et les autres et à désirer le salut de leur âme. Et on peut prendre ce verset 14 de plusieurs manières différentes. Mais quand vous lisez la suite, quand Paul vient de dire « l'amour de Christ le presse », je ne peux pas m'empêcher que la suite, juste la suite du verset, eh bien, ça développe l'idée que l'amour de Dieu est vaste, vaste, et il englobe tout le monde. Parce qu'il dit « car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, alors tous donc sont morts ». Alors, bien sûr, on peut voir les chrétiens tous donc sont morts en Christ, mais je ne peux pas m'empêcher, vu le développement de ce texte, que il y a la pensée aussi que tous donc sont morts, c'est-à-dire que tous sont dans la possibilité d'être morts en Christ. Tous peuvent être sauvés, peuvent accepter Jésus-Christ. Quiconque, quand Dieu dit quiconque, c'est quiconque. Dieu ouvre. Il dit quiconque croit en lui, eh bien ne périra point, mais aura la vie éternelle. Et c'est cet amour-là qui pressait l'apôtre Paul. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que cet amour-là me presse, nous, ou nous presse, nous aussi ? Chacun doit se poser la question, est-ce que l'amour de Christ me presse, moi ? Et moi, quand je me pose la propre question, je dois me dire, mais en fait, pas toujours. Hein ? L'amour de Christ, je ne peux pas dire qu'il me presse tout le temps. Ça, ce n'est pas vrai. Maintenant, à qui la faute ? Est-ce que c'est Dieu qu'il faut blâmer ? Ah, Dieu ne presse pas par son amour, ou bien c'est moi-même qu'il faut blâmer. Par exemple, peut-être parce que l'amour de moi, l'amour de ma petite personne, en fait, prend de la place, et alors bien de fait, l'amour de Christ ne peut pas me remplir. Et vous serez certainement d'accord que c'est plutôt là qu'est le problème. C'est que quand on s'aime trop soi-même, eh bien, l'amour de Christ ne peut plus venir remplir notre cœur. Si on est trop préoccupé par soi, eh bien, on passe à côté de l'amour que Dieu veut nous donner. Et Paul enchaîne en disant verset 15, et il explique « Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Et pourquoi parfois l'amour de Christ eh bien, ne nous presse pas, ne nous presse plus ? Eh bien, c'est peut-être parce qu'on est trop préoccupé par soi-même. Mais si Christ est mort pour tous, et donc pour nous, c'est afin que nous, il dit, nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais nous vivions pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et c'est clair que quand on se consacre à Dieu, et on veut être à la croix, on se lève le matin et on veut vivre la vie que Jésus-Christ a pour nous, disant « Seigneur, fais de moi ce qui te semble bon, conduis-moi dans cette journée », alors eh bien Dieu est libre après de nous donner de l'amour et de nous presser par son amour. Et parfois, c'est vrai qu'on n'adopte pas forcément la bonne attitude. On dit par exemple « Bon, moi, l'amour de Christ ne me presse pas, donc je ne vais pas chercher à témoigner de ma foi, à partager ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Ce n'est pas mon appel. » Mais ce n'est certainement pas comme cela qu'il faudrait raisonner. Ce que Dieu veut, c'est qu'on se consacre à lui, qu'on renonce à soi-même et qu'on lui obéisse. On fasse ce que Dieu nous dit de faire. Et après, eh bien, Dieu est libre de mettre l'amour dans notre cœur. Donc, ce n'est pas parce que l'amour ne me presse pas, alors je ne fais plus rien. Hein, c'est un moment, il y a eu un mouvement, les piétistes. Et ils attendaient, en fait. Hein, ils attendaient que ça vienne. Voilà, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et c'est vrai qu'avec le Seigneur, des fois, on attend, mais il faut aussi aller. Hein, bon, aujourd'hui, j'ai pas très envie de prier. Bon, ben, je vais pas prier. Demain, j'aurai peut-être envie. Ben, je prierai demain. Puis le lendemain, j'ai pas trop envie non plus. Ben, je prierai après-demain. Et on peut rester comme ça? Non. Dieu dit, prie. Non, on a lu, lis ta Bible, prie chaque jour. Ben, je prie, même si j'ai pas envie. Et en priant, ben, je vois que Dieu me donne. Et d'un seul coup, je respire. Et tout devient plus léger. Et puis, ben voilà, ça m'a fait du bien. C'est. Je viens d'exhorter ma petite sœur et elle était toute contente parce qu'elle avait perdu un peu le contact avec le Seigneur. Et puis elle est revenue au pied du Seigneur et de nouveau elle a respiré. Et c'est de ça dont on a besoin. Et c'est la même chose pour l'amour de Christ. C'est je ne dois pas attendre. Quand j'aurai de l'amour pour ceux qui m'entourent, j'irai leur parler de Jésus-Christ. Je vais attendre pendant longtemps. C'est Dieu dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, allez. Donc, je vais, et en allant, Dieu me donne la force et me porte. Et en parlant, il remplit ma bouche et il le fait. C'est l'action qui vient en premier, et puis l'obéissance. Par l'obéissance, eh bien, Dieu fait son œuvre et Dieu donne ce qui nous manque. C'est ça qui est important. Et Dieu veut mettre son amour dans nos cœurs, l'amour de Christ. Ensuite, la deuxième chose nouvelle, c'est le regard que Dieu nous donne. Nous avons un nouveau regard. Regardez verset 16. Il dit, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » Et il y a quelque chose qui change vraiment en Christ, c'est que celui qui est en Christ, il voit le monde avec un autre regard. C'est pour cela que Paul dit, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est-à-dire, nous ne connaissons plus le monde, nous ne regardons plus le monde. C'est tout le monde qui nous entoure, nous ne le voyons plus d'une manière naturelle et charnelle, mais on le voit avec le regard de Christ. Avec la pensée de Christ. Et Paul l'illustre en disant que c'est vrai, au départ, on a connu Christ selon la chair. Quand on s'est approché, ou plutôt quand Christ s'est approché de nous, eh bien, on le regardait avec des regards purement humains et pas du tout spirituels. Mais maintenant, nous ne connaissons plus Christ de cette manière. Non, maintenant que Dieu a ressuscité notre esprit, eh bien, nous le connaissons intimement, spirituellement, profondément, il y a une relation, on ne voit plus Jésus de la même manière. Et c'est la même chose pour les gens qui nous entourent, en fait. Hein. Quand on est en Christ, c'est pour ça là, il dit, maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Aujourd'hui, quand on rencontre une personne, eh bien, c'est pas simplement un corps de chair, comme autrefois, c'est que on voit qu'il y a une âme qui est précieuse aux yeux de Dieu, une âme qui a une disposition à vivre pour l'éternité. Et c'est ça qui compte. Chaque âme est importante parce qu'elle est éternelle. Et nous pouvons, avec le regard de Christ, voir les gens d'une manière qui est complètement différente aujourd'hui. Et peut-être on devrait se poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi vis-à-vis de cette personne que je viens de rencontrer? Qu'est-ce qu'il veut que je dise à cette personne que je vois tous les jours parce que je lui achète du pain ou parce que je lui parle par-dessus la clôture? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Dieu nous donne un nouvel amour, il nous donne un nouveau regard pour que nous puissions nous soucier de ceux qui nous entourent. Et puis il nous donne une nouvelle vocation, versets 18 à 20. Il dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et la troisième chose nouvelle que Dieu nous donne, c'est une nouvelle vocation. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. On se dit, quel poste, hein ? Je viens de refaire mon passeport, là, donc je vais recevoir un passeport. Vous savez, les ambassadeurs, ils n'ont pas la même couleur de passeport. Eux, ouais, ils ont un accès un peu privilégié. Hein. Eh bien, Dieu nous dit que nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui représente un État auprès d'un autre État. Et nous, nous représentons eh bien, un État céleste. Voilà, nous sommes du ciel, citoyens du ciel. Et nous sommes des ambassadeurs auprès de ce monde, auprès de la terre. Qu'est-ce qui caractérise les ambassadeurs? Je lisais que les ambassadeurs, quand ils commencent leur journée, la première chose qu'ils font, c'est lire les instructions qui émanent du pays d'où ils viennent, hein, à qui ils appartiennent. Donc qu'est-ce que attend eh bien, le chef du gouvernement ou les responsables du gouvernement de mon pays? Et on peut dire de la même manière, Dieu attend qu'on commence notre journée en lisant les instructions qui émanent du ciel, qui viennent de Dieu pour nous. Pas qu'on fasse d'un père. Ensuite, les ambassadeurs, ce sont des personnes qui sont très attentives à chaque parole. Chaque parole compte. Hein. On peut faire une grosse erreur hein, si on n'a pas mis une bonne virgule ou un bon mot ou une intonation. Hein. Donc, ils sont très vigilants à ce qu'ils disent. Hein. L'ambassadeur, il parle au nom de son pays, au nom du chef qu'il représente. Hein. Et donc, il convient qu'il traduise exactement la pensée de son état, hein, de son chef. Et Dieu nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et Dieu veut qu'on dise exactement ce qu'il veut qu'on dise. Pas trop, qu'on verse pas la salière, parce que alors là, c'est pas la peine. Ensuite, les ambassadeurs, ils doivent être irréprochables dans leur conduite pour défendre les intérêts de leur nation. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui sait se tenir auprès de ses homologues. Il ne peut pas perdre son sang-froid, s'énerver, faire n'importe quoi. C'est pas possible. Un ambassadeur comme ça, il ne reste pas longtemps ambassadeur. Il est vite viré. Et Dieu nous dit, soyez toujours prêts à vous défendre, mais avec douceur, avec respect. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Avoir toujours cette tenue et savoir eh bien, défendre nos positions, nos positions de notre nation céleste, mais avec douceur et respect. Enfin, un ambassadeur, il essaye de faire la jonction, le lien entre le pays où il est en poste et puis l'État qu'il représente. Et donc l'ambassadeur, il va faire passer les informations quand c'est nécessaire. Imaginez, vous êtes l'ambassadeur d'une nation puissante, une grande nation, et vous êtes en poste dans un tout petit pays, de rien du tout, hein, qui est insignifiant sur la carte, hein, et ce tout petit pays vient de lever le poing contre votre nation, que vous représentez, et vous recevez un communiqué donc, du chef de votre gouvernement, qui dit en quelque sorte, cherchez à rétablir la paix avec eux. Nous sommes prêts à oublier leurs provocations. Souvent, les États se provoquent les uns les autres. Mais s'ils ne veulent pas, eh bien nous vous rapatrierons et nous les châtierons. Finalement, ça ressemble assez à notre mandat. Nous sommes aussi des ambassadeurs de Dieu, nation puissante, nation céleste. Et Dieu nous dit, allez-y, continuez à vouloir établir la paix. C'est Dieu qui veut établir la paix avec les hommes qui sont autour de nous. Est-ce que Dieu est dans une position de faiblesse? Non, pas du tout. Est-ce que Dieu est obligé de rétablir la paix avec ces hommes qui sont autour de nous? Non, pas du tout. Mais c'est lui qui nous envoie pour chercher la réconciliation avec eux. Dans ces versets, 5 fois, il est répété ce mot « réconciliation ». Réconciliation. Et Dieu cherche vraiment la réconciliation, bien qu'il n'en soit pas obligé. C'est l'homme qui a offensé Dieu, c'est l'homme qui a levé le poing contre Dieu, et c'est Dieu qui dit « je veux faire la paix avec lui ». Verset 19, on lit même que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et donc, il a tout fait pour que l'homme puisse se réconcilier avec lui. Et on lit aussi qu'en tant qu'ambassadeur de notre patrie, il est écrit que Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Ça, c'est universel. C'est pour tous les enfants de Dieu. Nous avons la parole de la réconciliation. Nous avons la capacité de dire « réconciliez-vous avec Dieu ». Réconciliez-vous avec Dieu. Certains vont le dire derrière un pupitre, d'autres vont le dire derrière une clôture de jardin, d'autres vont le dire derrière un comptoir, d'autres vont le dire à quelqu'un dans la rue. Mais on a tous la capacité de prêcher cette parole de la réconciliation. Bientôt, on sera rapatrié. Oh, l'enlèvement. Et Dieu, eh bien, châtiera les rebelles et les impies. Mais en attendant, eh bien, il veut qu'on porte son message, ce message de la réconciliation. Donc, un nouvel amour, un nouveau regard, une nouvelle vocation. Et maintenant, on peut regarder le message. Un nouveau message. Et le message, c'est pas seulement « Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » Ici, c'est un cri du cœur, un cri du cœur de Dieu, qui par la bouche de l'apôtre Paul, dit « Mais voilà, faites pas le poids, nous vous en supplions, soyez sages, faites la paix avec Dieu, parce que c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc faites la paix avec Dieu. » Mais c'est pas le message. Regardez plutôt le verset 21 qui résume bien le message. Il dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus est celui qui n'a point connu le péché. Dans sa condition humaine, identique à la nôtre, à l'exception de la nature pécheresse, il n'avait pas la nature pécheresse, Jésus n'a pas connu le péché. Jésus n'a pas péché durant toute sa vie. En fait, il s'est retrouvé un peu dans la même situation qu'Adam, mais Adam a cédé et Jésus a résisté. Le serpent est venu tenter Adam, le serpent est venu tenter le second Adam, Jésus-Christ, mais lui, Jésus-Christ, a résisté. Lui, il n'est pas tombé dans le péché. Il n'a pas cédé, il n'a pas connu le péché. Mais pourtant, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Quoique il n'a pas cédé au mal, Dieu a fait de lui un coupable. En fait, c'est ça que ça veut dire. Il a été fait péché pour nous, c'est que Christ est devenu un coupable. Dieu a mis sur Christ la culpabilité de tous les menteurs, de tous les égoïstes, de tous les violents, de tous les blasphémateurs, de tous les criminels. Il a mis cette culpabilité sur lui et il l'a traité comme le coupable. Et c'est en cela que Jésus-Christ a été fait péché pour nous. Quoi qu'innocent, il a été fait péché pour nous. Il a porté notre culpabilité. Et il dit « afin que nous devenions en Christ justice de Dieu ». Si c'est l'accomplissement final du plan de Dieu, le premier Adam dans le jardin d'Éden a échoué devant l'épreuve, il a cédé au serpent, le second Adam a remporté victorieusement, il n'a pas cédé au péché, mais ensuite, eh bien, Dieu l'a jugé comme un pécheur. Il a mis sur lui notre culpabilité. Et maintenant, Dieu va plus loin. Il offre au pécheur repentant la justice de Christ. Il nous donne sa justice. Christ n'avait jamais péché, il a été traité comme un coupable. Nous, nous ne savons que pécher, et il nous traite comme des saints. Il nous considère comme des saints. C'est incroyable. Il nous regarde comme saints au travers de son Fils bien-aimé. En Christ, nous devenons justice de Dieu. Je suis juste. C'est merveilleux de se dire ça. Quand vous tombez, et on tombe souvent, hein, quand vous tombez, de venir à ses pieds et dire « Seigneur, pardonne mes péchés. Je te demande pardon et je te rends grâce parce que tu as donné ton Fils qui est mort pour moi. » De relever la tête et de se dire « Dieu me regarde comme ça. » C'est-à-dire, je ne vais pas continuer à porter la peine de mon péché. Et... Non, Dieu m'a pardonné. Je me relève. Merci Seigneur. Et voilà, je reprends le chemin avec lui. Dieu me regarde comme ça. En lui, nous devenons justice de Dieu. C'est le plus grand et le plus beau des messages. 2 Corinthiens 6, 1, il dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Et là, quand on arrive à ce passage, on peut le voir aussi de deux manières différentes. La première, ça nous parle à tous. Hein, à nous, nous l'aimons, nous le servons. Et il dit, puisque nous travaillons avec Dieu. Et ce n'est pas que nous travaillons pour Dieu, mais nous travaillons avec Dieu. Il y a une vraie différence. Quand on travaille pour quelqu'un, eh bien, quand on travaille pour un patron dans le monde, il nous donne des instructions, il s'en va. Il revient voir si ça s'est bien passé. Si ça ne s'est pas bien passé, eh bien, on perd son travail. Ici, Dieu travaille avec nous. C'est-à-dire qu'il nous donne des instructions, mais il ne nous laisse pas. Il ne nous abandonne pas. Il est avec nous, dans l'œuvre. Il est en train de faire l'œuvre. Et Dieu veut répandre sa grâce sur nous pour pouvoir faire l'œuvre. Ainsi, quand il nous dit, vous avez reçu la parole de la réconciliation, vous êtes des ambassadeurs, allez! Eh bien, si on va, il est avec nous. Et on ne doit pas recevoir sa grâce en Dieu, on doit la recevoir et aller, justement. Hein. Sinon, eh bien, la grâce nous est donnée, mais on ne fait rien. On ne fait rien. Mais la deuxième manière de le comprendre, c'est que Dieu s'adresse à tous les hommes et il encourage tous les hommes à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et on vient de voir que ce que Dieu a fait pour se réconcilier avec nous, pécheurs, il n'était pas obligé, mais pourtant c'est lui qui est descendu et c'est lui qui a tout fait pour se réconcilier avec nous, pour nous pardonner et nous donner sa justice. Voilà, il nous offre le salut. Et il dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Pourquoi attendre? Ça m'a choqué d'entendre que Armand était tombé cette semaine. Je me suis dit, mais c'est incroyable. On parlait avec lui dimanche. Je l'ai visité il y a 15 jours. Et c'est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je l'ai visité il y a 15 jours. On a pu reparler du salut. Et puis d'un seul coup, là, ça y est, il est parti. Et on se dit, ça va très vite en fait. Hein. Il était en bonne santé. Il venait d'aller à Barcelone. Donc il y a 10 jours, il est allé à Barcelone. Il y allait quand même, hein. Il était en forme. Et voilà, Dieu a choisi. Il a dit, c'était le temps. Et on ne sait pas quel est notre temps. On ne sait pas comment on va partir. Personne ne peut dire, mais moi je sais que j'ai encore 20 ans à vivre, ou 30 ans, ou 50 ans. On ne sait pas, en fait. Hein. On ne sait pas. Je viens d'acheter un scooter pour faire mes déplacements. Je prie à chaque fois que je prends mon scooter et je me dis, mais je pourrais perdre la vie là. Ça pourrait aller si vite. Ça va si vite. Hein. C'est pareil en voiture. Hein. C'est pareil en traversant la rue. En fait, on peut perdre la vie si vite. Et Dieu nous dit, voici maintenant le temps favorable. Maintenant, c'est maintenant. Pourquoi attendre demain? on repousse à demain, à demain, à demain, et un jour, c'est fini. Parce que le temps qui nous était alloué est terminé. Dieu dit maintenant, c'est fini. Si vous n'avez pas donné votre cœur à Jésus-Christ, combien de temps allez-vous encore attendre? Combien de temps allez-vous repousser encore? Dieu vous dit, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et je vous invite à prier maintenant. Et je veux vous redonner une occasion, si vous ne l'avez pas fait, de pouvoir le faire ce matin. On va s'incliner dans la prière. Si vous voulez bien prier avec moi. Seigneur, nous voulons te remercier pour Jésus-Christ qui a été fait péché pour nous. Merci Seigneur parce que tu étais saint, parfaitement pur, sans péché, innocent. Et tu as porté la somme de nos péchés en ton corps, sur le bois, comme dit ta parole. Seigneur, merci parce que tu es descendu du ciel pour mourir pour nos péchés. Merci Seigneur parce que par ta mort, tu veux nous donner le pardon, tu veux nous donner la vie. Mais tu veux aussi que nous te donnions notre vie. C'est aussi une condition de se repentir, de demander pardon pour ses péchés et de te céder son cœur. Seigneur, que tu puisses encore frapper à la porte des cœurs. Merci d'avoir frappé à la porte de mon cœur. Et merci de frapper encore à la porte des cœurs. Et je vous invite, si ce matin vous entendez ce que Dieu dit, alors eh bien je vous invite à faire cette prière et à dire Seigneur Jésus, c'est entre vous et Dieu. Vous pouvez lui dire Seigneur Jésus. Voilà, c'est le moment, c'est maintenant. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande grâce, Seigneur, que tu entres dans mon cœur et que tu fasses de moi ton enfant, s'il te plaît. Je te cède ma vie. Je te cède les droits sur moi-même. Je te demande que tu me donnes ce nouveau commencement, ce nouveau départ, que ma vie soit vraiment changée, qu'il y ait vraiment un avant et un après, une transformation, et que tu me donnes de vraiment te connaître, s'il te plaît. Seigneur, sauve-moi. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus, je te rends grâce de cette offre qui est gratuite, qui est facile et qui demande la repentance. Et je te remercie, Seigneur, de continuer à sauver et de continuer à frapper à la porte des cœurs. Merci de faire grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.